Dans le grand silence, voici la mer. Ici, nous pouvons oublier la ville. Il est vrai que les cloches sonnent encore l'Ave Maria. C'est ce bruit funèbre et insensé, mais doux au carrefour du jour et de la nuit. Attendez un moment encore. Maintenant, tout se tait. La mer s'étend pâle et brillante, elle ne peut pas parler. Le ciel joue avec des couleurs rouges, jaunes et vertes, son éternel et muet jeu du soir. Il ne peut pas parler. Les petites falaises et les récifs qui courent dans la mer comme pour y trouver l'endroit le plus solitaire, tous, ils ne peuvent pas parler. Cet énorme mutisme qui nous surprend soudain, comme il est beau et cruel à dilater l'âme. Hélas, quelle duplicité il y a dans cette muette beauté, comme elle saurait bien parler et mal parler aussi si elle le voulait. Sa langue liée et le bonheur souffrant empreint sur son visage, tout cela n'est que malice pour se moquer de ta compassion. Qu'il en soit ainsi. Je n'ai pas honte d'être la risée de pareille puissance, mais j'ai pitié de toi, nature, parce qu'il faut que tu te taises, quand même ce ne serait que ta malice qui te lie la langue. Oui, j'ai pitié de toi à cause de ta malice. Hélas, voici que le silence grandit encore et mon cœur se gonfle de rechef. Il s'effraie d'une nouvelle vérité, lui aussi ne peut pas parler. Il se met de concert avec la nature pour narguer, lorsque la bouche veut jeter des paroles au milieu de cette beauté. Il jouit lui-même de la douce malice du silence. La parole, la pensée, même, me deviennent odieuses. Est-ce que je n'entends pas, derrière chaque parole, rire? Et l'erreur, et l'imagination, et l'esprit d'illusion? Ne faut-il pas que je me moque de ma pitié? Que je me moque de ma moquerie? Ô mère, ô soir, vous êtes des maîtres malicieux. Vous apprenez à l'homme à cesser d'être homme. Doit-il s'abandonner à vous? Doit-il devenir comme vous êtes maintenant, pâle, brillant, muet, immense, se reposant en soi-même, élevé au-dessus de lui-même? Pour qui la vérité? Jusqu'à présent, les erreurs ont été les puissances les plus riches en consolation. Maintenant, on attend les mêmes services des vérités reconnues, et l'on attend un peu longtemps. Comment? Les vérités ne seraient-elles peut-être justement pas à même de consoler? Serait-ce donc là un argument contre les vérités? Qu'ont-elles de commun avec l'état maladif des hommes souffrants et dégénérés pour que l'on puisse exiger qu'elles fussent utiles à ceux-ci? On ne prouve rien contre la vérité d'une plante si l'on établit qu'elle ne saurait contribuer en aucune façon à la guérison des hommes malades. Mais jadis, on était convaincu que l'homme était le but de la nature, au point que l'on admettait sans plus que la connaissance ne pouvait rien révéler qui ne fût salutaire et utile à l'homme, et même qu'il ne saurait, à aucun prix, y avoir autre chose au monde. Peut-être pourra-t-on conclure de tout cela que la vérité, comme entité et ensemble, n'existe que pour les âmes à la fois puissantes et désintéressées, joyeuses et apaisées, telles qu'étaient celles d'Aristote, de même que ces âmes aussi seront seules à même de la chercher. Car les autres cherchent des remèdes à leur usage, quel que soit d'ailleurs l'orgueil qu'ils mettent à vanter leur intellect et la liberté de cet intellect, ils ne cherchent point la vérité. Voilà pourquoi la science procure si peu de joie véritable à ces autres hommes qui lui font un reproche de sa froideur, de sa sécheresse et de son inhumanité. C'est là le jugement des malades sur les jeux de ceux qui se portent bien. Les dieux de la Grèce, eux aussi, ne s'entendaient pas à consoler. Lorsque l'humanité grecque finit par tomber malade, elle aussi, ce fut une raison pour que périssent de pareils dieux.